Bon après-midi tout le monde, vous êtes à l'antenne de 101 FM CHA. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On fait maintenant place à la chronique télévisuelle de notre chroniqueuse Constance Kazeninga. Comment ça va, Constance?
Ça va bien, toi?
Bien, merci. Aujourd'hui, tu nous parles d'une nouvelle série sur le Club Illico avec Mélissa Desormeaux-Poulain.
Oui, c'est Lac Noir, une toute nouvelle série en 8 épisodes qui est débarquée aujourd'hui même. Si vous aviez vu l'image de Mélissa Desormeaux-Poulain dans un uniforme, peut-être que vous avez eu l'impression que c'est encore une autre série policière. Mais non, Lac Noir, c'est une série de genre comme il s'en fait assez peu chez nous. Bon, oui, c'est au croisement de la série policière, mais on a quand même quelque chose d'assez différent. On suit donc Valérie, qui est le personnage de Mélissa Desormeaux-Poulain, qui est une policière de Montréal qui s'installe dans une petite communauté des Laurentides avec son ado qui s'appelle Dave, qui est joué par Anthony Therrien. Donc, il s'installe là seulement pour l'été, le temps d'aider dans une enquête sur la disparition d'un confrère policier. Comme téléspectateurs, nous, on a, dès le départ, une bonne idée de ce qui a pu arriver au policier en question qui a disparu, parce qu'on le voit dans une, disons, très, très mauvaise posture dans la première scène. Et puis, ça nous fait comprendre d'entrée de jeu qu'on fait face, au moins en apparence, à quelque chose d'inhumain, de monstrueux, puis d'assoiffé de sang. Mm-hmm. Bon, là, moi, j'ai vu seulement un épisode jusqu'à maintenant, donc je peux pas dire que j'ai été captivée outre mesure, mais je dois quand même dire...
C'est ça, la promesse, justement, de ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que la première émission, c'est de poser les bases de l'univers.
C'est dur d'être captivé complètement par juste un épisode, mais je dirais quand même que j'ai été vraiment intriguée. Ben oui, ça arrive.
Twin Peaks, le premier épisode, là, c'était bon.
Oui, mais non, c'est pas que c'est pas un bon épisode, là, c'est pas ça. C'est juste que, je veux dire, c'est difficile d'évaluer un produit avec seulement un épisode.
Non, c'est clair, mais déjà, est-ce que les bases...
quand même que j'ai été intriguée, oui, c'est ça. On voit que l'équipe connaît bien les codes du genre, que les éléments sont en place pour faire quelque chose de bon. Lac Noir, c'est co-scénarisé par Charles Dionne, qui a écrit le très bon film Jusqu'au déclin, la première production originale québécoise de Netflix.
Oui!
Ça a aussi été co-scénarisé par Martin Girard, qui lui a, entre autres, écrit la mini-série un peu so-so, le jeu, et puis le film très so-so, ni trop rush, mais bon...
Oh mon Dieu! Je peux te faire une parenthèse vite? J'ai vu Nitro Rush dans une projection test avec un ami. J'étais étudiant au cégep et à la fin du film, moi et mon ami, on était au fond de la salle. On a ri comme ça avait pas de sens parce que c'était tellement poche. Et tout le monde s'est retourné en nous regardant comme « Pourquoi vous riez? » Puis c'est comme « C'était tellement poche que c'était drôle. » Donc, en tout cas, j'ai un excellent souvenir.
Nitro Rush avait gagné plusieurs prix aux Aurores.
Ouais, l'Aurore du pire film. Très mérité, très mérité.
On n'est pas au même niveau là, avec Lac Noir. Lac Noir, c'est réalisé par Frédéric Damour, qu'on connaît entre autres pour Alerte Amber.
Oui.
Il y a plusieurs années, le film À vos marques, partez. Donc, il retrouve Mélissa Desormeaux-Poulain ici.
Ouais.
Et puis, c'est une réalisation qui propose des images très contrastées. On joue beaucoup avec les ombres. Bref, j'ai trouvé que l'équipe créait vraiment très bien l'ambiance recherchée. On le voit dès le générique qui reprend des designs de films de série B. On a aussi le contexte campagnard dans le bois qui résonne évidemment avec plein de films d'horreur classiques. Je vois vraiment là que les créateurs de Lac Noir connaissent bien leur cinéma d'horreur. On le voit avec des références à Blair Witch Project avec les symboles occultes ou encore à Friday the 13th avec la présence d'un camp au Lac Noir. Donc, en plus de ça, ben un des lieux principaux de la série, il y a le camp dont je parlais, il y a une église, mais il y a aussi une boucherie qui est une manière assez classique, plutôt ludique, d'ajouter un peu de gore, un peu de sang à l'écran. Puis évidemment, ben l'ambiance d'un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde a ses secrets, c'est toujours fort pour démarrer sur des mystères. Surtout que là, on se concentre sur une nouvelle venue, la policière Valérie, qui va donc devoir découvrir petit à petit tous ces secrets-là. Et il y a vraiment beaucoup de petits mystères qui sont parsemés dès le premier épisode. Là, c'est un peu comme un petit pousset qui nous trace son chemin. Mm-hmm. On a des symboles sataniques. On a la fille de la propriétaire du camp, qui s'appelle donc Jade, qui est jouée par le Ribabin, qui a des rêves avec des visions qui l'effraient. On a un prêtre qui fait voler son précieux calice. On a deux frères, les Provost, qui sont menaçants puis ouvertement violents. On a une vieille dame méfiante qui collectionne des crucifix. On a des bruits de bêtes étranges qui résonnent dans plusieurs scènes. Donc, il y a beaucoup de bons stocks, beaucoup d'indices qui contribuent à créer cette horreur-là. En plus de tout ça, ben, il y a un mystère qui est très gros pour moi. Pourquoi Dave, le fils de la policière, le suivit quand il avait l'option de rester chez son père et puis de passer l'été avec ses amis comme n'importe quel ado normal? Bon, est-ce que c'est seulement pour qu'il devienne le love interest de Jade ou est-ce que la mère et le fils ont leur propre secret qu'ils ont fait fuir la ville?
Donc, on peut vraiment dire justement que les bases sont bonnes.
Oui, vraiment, vraiment.
Comparé, mettons, à d'autres séries qui sont présentement actuelles, tu dirais que cette série-là, c'est juste par son premier épisode, c'est plus démarqué qu'un autre?
Ben, je dirais que c'est une série qui demeure vraiment accessible. La violence est plus suggérée que graphique.
OK, oui.
Je pense que les grands fans d'horreur vont peut-être être déçus à ce niveau-là.
Ben en fait, c'est que
les effets spéciaux, ça coûte vraiment cher, hein? Donc, c'est pas toutes les productions québécoises qui peuvent se permettre ce genre d'investissement-là. Le Club Illico puis Pixcom, qui produit la série, sont allés chercher des gens vraiment talentueux pour contribuer justement aux effets spéciaux. Je pense entre autres à Adrien Moreau, qui est un artiste maquilleur puis un artiste d'effets spéciaux québécois, mais qui est établi à Hollywood, qui a même mérité une nomination aux Oscars pour le film Le Monde de Barney. Donc, il y a vraiment beaucoup de potentiel là, dans cette série-là. Mais c'est sûr que les grands fans d'horreur vont probablement toujours préférer des grosses productions américaines à des productions québécoises, malheureusement, simplement pour des questions d'enveloppe de budget. Là.
Mais c'est parce que tu parles du sous-entendu. Je sais pas pour toi, mais moi, les choses qui m'ont le plus marqué sont celles où on n'a pas eu nécessairement de réponse. C'est un peu la même... Pour les fans d'horreur, la fin de Rosemary's Baby, c'est un peu la même logique, justement, de ne pas montrer... Donc c'est
je te parle pas de la conclusion, par contre. Je te parle vraiment de...
La
mort des personnages.
C'est justement le fait de ne pas voir ces images-là permet au spectateur de faire sa propre image.
Dans ce cas-ci, je peux sûr que ça rend ça plus effrayant.
Que ça quoi?
Dans ce cas-ci, je ne pense pas que de suggérer les scènes plutôt que de les montrer les rendent plus effrayants. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais dans ce cas-ci, je ne pense pas que ça soit.
Ben, si le but en tant que tel, c'est de l'horreur, ça, c'est vrai, mais dans la manière dont tu parles de la série, il y a un petit côté dramatique. Donc, si c'est plus accessible, justement, de ne pas le montrer,
c'est ça.
Ouais. Parce qu'au final...
Ça va plaire à un plus grand public. Moi, je peux juste avertir que les grands fans de films d'horreur ou de séries d'horreur, ben ils vont peut-être être un peu déçus que certaines violences soient pas aussi explicites.
Ouais, mais c'est pas autant du côté de présenter une façon de mourir, mais c'est plus dans l'ambiance en tant que telle. Parce que si tout le monde se ressemble, si tout se ressemble autant, ça devient oubliable. La question, c'est est-ce que la série va passer le cours du temps au même titre, mettons, qu'un série noir ou un 19-2? C'est ça qui va être intéressant à voir pour jusqu'à la fin de la saison. Sinon, changement de sujet, Constance, je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir, mais la bande-annonce pour la deuxième saison de C'est comme ça que je t'aime est sortie.
Ah non, j'ai pas vu encore. Je sais que ça s'en vient très, très bientôt, le 3 mars, là, donc dans un mois, jour pour jour, mais j'ai pas vu la bande-annonce. Je vais aller faire ça, je sais pas.
Écoutez, pour ceux qui l'ont... Personnellement, j'ai pas encore commencé la série, mais j'aime les séries qui ont une bonne attention à la personnalité d'un réalisateur ou d'un créateur comparé à plein de séries au Québec qui se ressemblent tous, même si on sait que c'est dû justement à un manque de temps et de budget, mais n'empêche, c'est très beau à voir. Alors, je le recommande. On va terminer là-dessus. Constance Kazeninga, notre chroniqueuse télévisuelle, qui est venue nous parler de la série Lac Noir, qui est disponible sur le Club Illico. Merci beaucoup de nous en parler au 101 FCHI.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.